actuelle. Selon Fritz Nelpierre, membre du comité de pilotage de la MMAS, un comité chargé de veiller au respect des droits humains, les faits ont eu lieu dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite.
Radio G. 101.5 FM.
Court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bon week-end à toutes et à tous, pour la suite de la découverte littéraire de la semaine dernière. Nous sommes sur la deuxième émission consacrée au livre autobiographique « Écriture, mémoire d'un métier » de Stephen King. La semaine dernière, nous avions commencé un extrait où il parlait de l'importance de la lecture lorsque l'on souhaite écrire. Surtout lorsque l'on prend l'écriture au sérieux. Si vous n'avez pas encore écouté cette première émission, vous pouvez la retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Nous allons donc maintenant continuer la lecture de cet extrait. On se retrouve juste après, bonne écoute sur Radio G. Ne pas travailler est pour moi le véritable travail. Quand j'écris, c'est la cour de récré. Et les 3 heures les pires que j'y ai jamais passées restent malgré tout de sacrément bonnes heures. J'écrivais autrefois plus vite qu'aujourd'hui. J'ai même rédigé l'un de mes livres, Running Man, en une semaine. Exploit que John Cressey aurait peut-être apprécié. Bien que je l'ai lu quelque part, il aurait écrit plusieurs de ses polars en 2 jours. Je pense que c'est l'arrêt de la cigarette qui m'a fait ralentir. La nicotine est un grand titillateur des neurones. Le problème étant, bien entendu, qu'elle vous tue en même temps qu'elle vous aide à composer. Je considère néanmoins que le premier jet d'un livre, même long, ne devrait pas prendre plus de 3 mois, la durée d'une saison. Une durée plus longue, au moins en ce qui me concerne, et le récit commence à me donner une bizarre sensation d'étrangeté. Comme une dépêche du ministre des Affaires étrangères roumain, ou une émission diffusée sur ondes courtes pendant une période de violente éruption solaire. J'aime bien rédiger 10 pages par jour, ce qui équivaut à 2000 mots. Soit 180 000 sur une période de 3 mois. Cela correspond à une bonne longueur, donne un livre dans lequel le lecteur peut joyeusement s'aventurer, si l'histoire est bien conçue, et ne perd pas sa fraîcheur. Certains jours, ces 10 pages me viennent avec facilité. À 11h30, je suis déjà dehors et je fais des courses, gaillard, comme un rat dans un fromage. En prenant de l'âge, il m'arrive le plus souvent de déjeuner à ma table de travail et d'achever mes 10 pages vers 1h30. Parfois, lorsque ça ne me vient pas, j'y suis encore à l'heure du thé. Peu m'importe, en réalité. Ce n'est que contraint et forcé par les circonstances les plus extrêmes que je m'autorise à m'arrêter avant d'avoir mes 2000 mots. Ce qui favorise le plus une production régulière, trop le pienne, est une atmosphère de travail sereine. Il est difficile, même pour l'écrivain le plus naturellement prolixe, d'écrire dans un environnement où il est sans arrêt dérangé ou troublé. Lorsqu'on me demande quel est le secret de mon succès, question absurde à laquelle il est cependant impossible d'échapper, je réponds parfois qu'il y en a 2. Le fait que j'ai toujours été en bonne santé, jusqu'au jour où un van m'a renversé sur le bord de la route pendant l'été 1999, et le fait que je sois restée mariée. C'est une bonne réponse parce qu'elle vous débarrasse de la question, mais aussi parce qu'elle comporte une part de vérité. La combinaison d'un organisme en bonne santé et d'une relation stable avec une femme autonome qui ne me passe aucune connerie, et n'en passe à personne, est ce qui a rendu possible un travail régulier et continu dans ma vie d'écrivain. Je crois que l'inverse est également vrai, que le fait d'écrire et le plaisir que j'y prends ont contribué à me maintenir en bonne santé et à la stabilité de mon foyer. On peut lire partout, ou presque, mais lorsqu'il s'agit d'écrire, les bibliothèques, les bancs de parc et les appartements de location devraient être des solutions de dernier recours. Truman Capote affirmait qu'il n'écrivait jamais aussi bien que dans des chambres de motel. Mais c'est une exception. Pour la plupart, nous écrivons mieux dans un lieu qui est le nôtre. Tant que vous n'en aurez pas un, vous trouverez beaucoup plus ardu votre résolution toute neuve d'écrire. La pièce dans laquelle vous écrivez n'a pas besoin d'un décor dans l'esprit de Playboy et vous n'avez pas besoin d'un bureau à cylindre style guerre d'indépendance pour ranger votre matériel. J'ai écrit mes deux premiers romans publiés, Carrie et Salem, dans la lingerie d'une caravane double corps cognant sur la machine à écrire de ma femme, une Olivetti portable que je tenais en équilibre sur un bureau d'enfant posé sur mes genoux. John Cheever aurait écrit dans le sous-sol de son immeuble de Park Avenue, à côté de la chaudière. Le volume de la pièce n'a pas besoin d'être bien grand, devrait même être modeste, comme je crois l'avoir déjà dit. Mais une chose est indispensable, une porte que vous tiendrez fermée. La porte fermée est le moyen de dire au monde, comme à vous-même, que vous ne plaisantez pas, que vous êtes sérieusement décidé à écrire et que vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout et de faire tout ce qu'il faudra pour ça. Au moment où vous vous installez pour la première fois dans la pièce qui sera réservée à votre travail d'écrivain, vous devrez vous être fixé un objectif quotidien. Comme pour un exercice physique, il vaut mieux commencer par ne pas mettre la barre trop haut pour ne pas se décourager. Je vous suggère 1000 mots par jour. Et comme je suis magnanime, je vous accorde aussi un jour 100 par semaine, du moins au début. Cet objectif fixé, ne rouvrez la porte que lorsqu'il est atteint. Consacrez tout votre temps à déposer ces mots sur du papier ou dans un ordinateur. Dans une de mes premières interviews, je crois que c'était pour la promotion de Carrie, le présentateur d'une émission de radio me demanda comment j'écrivais. Ma réponse, un mot à la fois, le laissa, selon toute apparence, sans voix. Je crois qu'il se demandait si j'étais sérieux ou si je plaisantais. J'étais sérieux. En fin de compte, tout revient à ça. Qu'il s'agisse d'un texte, d'une page ou d'une trilogie épique comme Le Seigneur des Anneaux, le travail a toujours été fait un mot après l'autre. La porte sert à vous couper du monde extérieur. Elle sert aussi à vous enfermer et à mieux vous concentrer sur votre tâche. Si c'est possible, il faudrait mieux qu'il n'y ait pas de téléphone dans votre pièce de travail. En tout cas, pas de télé ou de jeux vidéo pour vous distraire. S'il y a une fenêtre, tirez le rideau ou baissez les stores pour que tout prenne la neutralité d'un mur. Pour un écrivain, et encore plus pour un écrivain débutant, il est judicieux d'éliminer tout ce qui peut être objet de distraction. Si vous continuez à écrire, ces objets de distraction s'élimineront d'eux-mêmes. Mais au début, il est prudent de leur faire la chasse. J'écris sur un fond de musique assez fort, des trucs de hard rock comme AC/DC, Guns N' Roses, et Metallica ont toujours été mes préférés. Mais la musique n'est pour moi qu'un autre moyen de fermer la porte. Elle m'entoure, maintient le monde et ses séductions au loin. Quand on écrit, il faut s'abstraire de l'univers, vous ne croyez pas ? Bien sûr que si. Quand on écrit, on crée son propre univers. À présent, je pense que nous devons parler du sommeil créateur. Comme votre chambre, votre bureau doit être un endroit privé, un endroit où vous allez pour rêver. Votre emploi du temps, vous y entrez à la même heure tous les jours, vous le quittez lorsque vos 1000 mots sont consignés sur le papier ou le disque dur, n'a de sens que pour vous donner une habitude, celle de vous mettre en condition pour rêver. Exactement comme vous vous mettez en condition pour dormir en allant vous coucher à peu près toujours à la même heure, tous les soirs, et en observant toujours le même rituel. Pour écrire, comme pour dormir, nous apprenons à rester immobile, tout en encourageant notre esprit à se libérer du bourdonnement de la pensée rationnelle qui l'occupe pendant notre vie diurne. Et de même que votre esprit et votre corps prennent l'habitude de dormir pendant un certain temps chaque nuit, que ce soit 6 heures, 7 heures ou les 8 que recommande la faculté, de même que vous pouvez donner l'habitude à votre esprit éveillé de dormir créativement et d'élaborer ses rêves éveillés, imaginés, avec de vives couleurs que sont les œuvres de fiction réussies. Pour cela, vous avez besoin d'une pièce, d'une porte qui ferme et de la détermination de la tenir fermée. Vous avez aussi besoin de vous fixer un objectif concret. Plus vous vous en tiendrez longtemps à cette stratégie de base, plus vous aurez de facilité à écrire. N'attendez pas Monsieur Muse. Comme je l'ai dit, c'est un cabochard dont il ne faut pas espérer qu'il nous inonde de poussière magique. Nous ne parlons pas ici d'une planchette Ouija pour devin de salon, ni de faire tourner les tables, mais d'un travail comme un autre, comme celui d'un plombier ou d'un conducteur de poids lourd. Votre boulot est de faire en sorte que votre Monsieur Muse sache que vous vous trouvez tous les jours entre 9h et 13h ou entre 19h et 3h. S'il le sait, je vous garantis que tôt ou tard, il pointera le bout de son nez en mâchonnant son cigare et ouvrira son sac à magie. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le livre biographique Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Bonne écoute. Chapitre 4. Bon, vous voilà dans votre bureau. Rideau tiré, porte fermée, téléphone débranché. Vous avez fait exploser votre télé et vous vous êtes juré d'écrire vos 1000 mots par jour. Qu'il pleuve, vente ou neige. Se pose alors la grande question. De quoi allez-vous parler ? Suivi de la tout aussi grande réponse de ce qui vous chante. De n'importe quoi, mais à une seule condition, dire la vérité. La grande règle dans les cours d'écriture est de parler de ce qu'on connaît. Ce qui paraît à première vue une bonne idée. Mais que faire si vous avez envie de raconter une histoire de vaisseau spatial explorant les autres planètes ou les déboires d'un homme qui a assassiné sa femme et tente de se débarrasser du corps en le débitant à la tronçonneuse? Comment s'y prend l'écrivain, dans ces deux cas, comme dans 1000 autres, tout aussi farfelus, pour se conformer à cette directive? Je crois qu'il commence par interpréter l'idée de parler de ce qu'il connaît de la manière la plus large et la plus générale possible. Si vous êtes plombier, vous connaissez la plomberie. Mais ce savoir est loin de recouvrir l'ensemble de vos connaissances. Le cœur aussi sait des choses, comme l'imagination. Grâce à Dieu! Sans le cœur et l'imagination, le monde de la fiction sentirait diablement le moisi. Il n'existerait peut-être même pas. En termes de genre, il paraît logique de penser que vous commencerez par écrire des textes inspirés par celui que vous aimez comme lecteur. Je crois avoir suffisamment rabâché, en long et en large, mon ancienne histoire d'amour avec les bandes dessinées d'horreur, pour ne pas avoir à y revenir une fois de plus. Mais je les adorais, ainsi que les films d'horreur comme I Married a Monster from Outer Space, J'épousé un monstre extraterrestre, et il en est résulté des récits comme J'étais un adolescent pilleur de tombes. Même aujourd'hui, je suis encore capable d'écrire des versions de ce thème à peine plus élaborées que celles-ci. J'ai en moi quelque chose comme un gène spécial, celui de la passion de la nuit et des cercueils, où ça s'agite, point final. Si vous désapprouvez, je ne peux que hausser les épaules. C'est tout ce que j'ai à offrir. Si vous êtes un fan de science-fiction, il est naturel que vous ayez envie d'en écrire. Et plus vous en aurez lu, moins il y aura de chances que vous revisitiez simplement les fillons du genre déjà surexploité, comme le space opéra et la satire dystopienne. Si vous êtes un fan de polar, vous aurez envie d'écrire des polars. Et si ce sont les romans d'amour qui vous font chavirer, il sera naturel pour vous de vouloir en écrire. Il n'y a rien à reprocher à cette réaction. Ce qui serait en revanche tout à fait critiquable, à mon avis, serait de vous détourner de ce que vous connaissez et ce qui vous plaît, ou que vous aimez, comme j'aimais mes vieilles bandes dessinées et ces nanars d'horreur en noir et blanc, pour vous attaquer à un autre genre dans le seul but d'impressionner vos amis, vos parents ou les collègues de votre cercle littéraire. De même, ce serait une erreur de s'intéresser à un genre ou à une catégorie particulière de la science-fiction dans le seul but de gagner de l'argent. C'est moralement douteux. Le boulot de toute fiction est de trouver la vérité au cœur des réseaux et des mensonges de l'histoire, non de commettre une malhonnêteté intellectuelle pour se faire du fric. Sans compter, chers frères et sœurs, que ça ne marche pas. Quand on me demande pour quelles raisons j'écris le genre de choses que j'écris, je trouve la question beaucoup plus révélatrice que toute réponse que je pourrais y donner. Emballé dedans comme est emballée la partie tendre à l'intérieur d'un Tootsie Pop, on trouve l'idée préconçue que l'écrivain contrôlerait sa production, alors que c'est le contraire. Un écrivain sérieux et qui croit en ce qu'il fait est incapable de s'emparer d'un matériau dont il pourra tirer une histoire à la manière dont un investisseur choisit des actions sur le marché, sélectionnant celles qui, à son avis, lui rapporteront le plus. S'il était possible de faire ainsi, tous les romans publiés seraient des best-sellers et les énormes avances sur droits consenties à la douzaine des soi-disant grands noms n'existeraient pas, à la grande joie des éditeurs. On ne consent ces avances très confortables à Grisham, à Clancy, à Crichton et à votre serviteur que parce que nous vendons un nombre particulièrement important d'exemplaires de nos ouvrages et touchons un public particulièrement vaste. On laisse parfois entendre que nous aurions accès à quelques vulgates mystiques que d'autres écrivains, parfois meilleurs que nous, n'auraient pu découvrir ou n'auraient pas daigné utiliser. Je n'y crois pas, pas plus que je ne crois à l'affirmation de certains auteurs de littérature populaire, je pense ici à la regrettée Jacqueline Suzanne, même si elle ne fut pas la seule à le dire, voulant que leur succès soit fondé sur leur mérite littéraire, sous-entendant par là que le public comprendrait intuitivement la vraie grandeur d'une manière qui échapperait au coincé du bulbe consumé de jalousie de l'establishment littéraire. Idée ridicule et pur produit de la vanité et de l'insécurité. Les acheteurs de livres ne sont pas attirés dans l'ensemble par les mérites littéraires d'un roman. Ils désirent avant tout une bonne histoire à dévorer dans l'avion. Une histoire qui les fascinera au point qu'ils auront envie de tourner chaque page jusqu'à la dernière. Ce qui se produit, à mon sens, lorsque le lecteur reconnaît les personnages du livre, leur environnement, leur façon de parler. Lorsqu'un lecteur entend clairement l'écho de ce qui est sa vie, de ce qui constitue ses croyances, il y a davantage de chances pour qu'il s'investisse dans l'histoire. Je suis prêt à soutenir qu'il est impossible de faire naître ce genre de lien de façon préméditée. De sonder le marché comme un bookmaker ayant un tuyau en or écumerait celui des parieurs sur un champ de course. L'imitation stylistique est une chose, une manière parfaitement honorable de commencer sa carrière d'écrivain. Une étape qu'il est tout à fait impossible d'éviter. Toutes les étapes ultérieures seront d'ailleurs plus ou moins placées sous le signe d'une imitation ou d'une autre. Mais malgré tout, on ne peut pas imiter la manière dont un auteur approche un genre particulier, aussi simple que soit en apparence cette manière. En d'autres termes, on ne peut pas téléguider un livre comme un missile de croisière. Ceux qui s'imaginent faire fortune en écrivant comme John Grisham ou Tom Clancy ne produisent en général que de pâles imitations, car posséder le vocabulaire ne suffit pas à faire sentir les choses, et parce que leur intrigue est à des années-lumière de la vérité, telle que celle-ci est comprise par l'esprit et le cœur. Quand vous voyez un roman avec un bandeau sur lequel on lit « Dans la lignée de John Grisham ou Patricia Cornwell ou Mary Higgins Clark ou Dean Koontz », vous savez que c'est une de ces imitations, fruit de ces peu reluisants calculs et en général barbantes que vous avez à faire. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire, insufflez-y de la vie et rendez votre texte unique en y mêlant ce que vous savez de l'existence, de l'amitié, des relations humaines, du sexe, du travail. En particulier du travail. Les gens adorent qu'on leur parle du travail. Dieu sait pourquoi, mais c'est un fait. Si vous êtes plombier et si vous aimez la science-fiction, pourquoi ne pas écrire l'histoire d'un plombier à bord d'un vaisseau spatial ou sur une autre planète? Si vous trouvez ça ridicule, pensez à Feu Clifford D. C. Mac et à son roman Ingénieur cosmique, qui n'en est pas si loin que ça. C'est un bouquin sensationnel. La seule chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut se garder de faire un cours sur ce qu'on sait. Qu'il faut ne l'utiliser que pour enrichir son histoire. Nous terminons donc la découverte de ce livre là-dessus. Le livre n'aborde pas seulement les conseils de Stephen King pour écrire, mais aussi ses expériences personnelles, et il nous plonge dans son monde intérieur à travers de nombreuses anecdotes qui expliquent d'où viennent certaines de ses idées. Écriture, mémoire d'un métier est disponible aux éditions Albin Michel ou chez le livre de poche dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez toujours retrouver dès maintenant les deux émissions dédiées à ce livre sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle découverte qui nous fera voyager sur une étrange planète rouge. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end !
Radio G, 101.5 FM.
Bad enough, I let her fly it. Keep a pistol in her glove compartment. In attendant Rolls Royce, spilling cushy crumbs, sipping gin and OJ. Sing your pull up in the Porsche, looking more free than a new divorcee. We ain't gotta go overseas.